solennel du grand trône blanc, à ne pas confondre avec la séance de Daniel 7, où il s'agit alors de jugement de vivants sur la terre. Là, c'est le jugement des morts, de ceux qui n'ont pas cru et dont le sort est fixé inexorablement. Les livres sont ouverts, même le livre de vie, ne serait-ce que pour démontrer que leur nom n'y est pas. Et alors, c'est les temps de feu, la seconde mort. Et puis alors, dans les 8 premiers versets du 21, nous avons l'état éternel, la bienheureuse éternité, l'épouse toujours à part, descend du ciel comme une épouse ornée pour son mari. Et puis, les hommes, l'habitation de Dieu est avec les hommes, Dieu tout en tous. Il n'y a que 3 passages dans l'Écriture, sauf erreur, qui font mention très brièvement de l'éternité. Ici, ces 8 premiers versets, 1 Corinthiens 15, Dieu sera tout en tous, et 2 Pierre 3, de nouveaux cieux dans lesquels la justice habite, non pas règne, mais habite pour toujours. Et puis alors nous avons une rétrospective du verset 9e, du chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, verset 5, l'Esprit de Dieu nous ramène en arrière pour nous faire contempler l'épouse vue comme une cité. Les questions là d'administration, il y a des portes, il y a des murailles, elle est vue comme une cité, un cube, c'est un cube parfait, sa longueur, sa largeur, sa hauteur était égale. Et elle est vue comme le vase par le moyen duquel Dieu dispensera sur la terre la bénédiction. Tout cela est à considérer et nous encourageons beaucoup les jeunes à voir cette succession des faits dans l'avenir, après l'enlèvement de l'Église jusqu'à la fin.
Se décourager, nous avons un père qui s'est penché sur ces vérités avec beaucoup d'attention, avec un esprit très éclairé. Chacun pense bien que nous citons Henri Rossier. Et quelque part, il dit, ne supposons pas d'un seul instant que nous puissions classer tous les événements de la dernière semaine prophétique grâce à un esprit de synthèse et un effort que nous fournirions pour partir d'un point A et aboutir à un point Z. Sans doute, il y a un point Z dans la prophétie, comme il y a un point A. Le point A, c'est la chute de l'homme en Éden, et le point Z, c'est la fin des voies de Dieu. Nous venons de l'entendre. Dieu a un propos qu'il accomplira, non pas en vertu de ce que l'homme aura produit sur la scène, c'est une sombre histoire, mais en vertu du propos qu'il a formé et dont l'accomplissement repose sur l'œuvre de Christ. Mais il n'est pas possible de classer tous ces événements, car ce cher frère dit, ce serait alors admettre que notre esprit est supérieur à l'esprit de Dieu, que nous pourrions, par un effort intellectuel, dans un vase limité, dominer, enfermer ce que l'Esprit de Dieu nous a fait connaître. Ce n'est pas possible. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous ne nous décourageons pas pour autant. Retenons que dans l'Ancien Testament, nous avons Israël qui est en scène avec les nations. Dans l'Apocalypse, il y a évidemment des relations à faire. Notre frère vient de le montrer. Nous n'avons plus le même sujet. Quoiqu'il y a des agents qui jouent un grand rôle, dépeints dans l'Ancien Testament et qui sont en scène dans le Nouveau. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la chrétienté et les nations, le monde christianisé. Vous voyez ? De sorte que, on pourrait dire, mais vous dites des contradictions, vous dites qu'il n'y a pas de prophétie pour l'Église. Et voilà que dans l'Apocalypse, il y en a. Mais ce n'est pas une contradiction. Il n'y avait pas à proprement parler de prophétie donnée à l'Église, mais bien des révélations. Mais déchu, comme il en a été dès le commencement, J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, et de cette chute initiale, toutes les autres sont subséquentes pour arriver au fait que l'Église sera tout à l'heure vomie comme une chose nauséabonde de la bouche du Seigneur pour se transformer, pour se manifester comme cette Babylone dans laquelle tomberont toutes les communautés chrétiennes pour former cet ensemble qui va jouer un rôle important. Son chef aujourd'hui est très remarquable. La puissance de cette femme, elle est assise sur de grandes eaux, des peuples, des nations, des langues. Cet homme se promène partout et étend l'influence, l'hégémonie de cette Église comme il n'en a jamais été dans l'histoire. N'oublions pas qu'elle a renoué des relations diplomatiques avec les États-Unis qui avaient été suspendues depuis l'assassinat du président Lincoln. L'année dernière, au mois de janvier, les relations ont été reprises. C'est un fait important dans l'histoire ecclésiastique. Alors, cette femme, évidemment, l'Église multitude qui sera vomie de la bouche du Seigneur, qui sera détruite par cette bête, c'est le sujet de l'Apocalypse, la chrétienté et les nations générales. Dans l'Ancien Testament, Israël et les pays avec lesquels, les pays voisins, les pays limitrophes avec lesquels ce peuple avait des relations. Il ne faut pas confondre les deux et il ne faut pas essayer de faire interpréter ces grands chapitres que Dieu nous donne à part. Et nous n'avons pas la clé pour en faire une synthèse comme on aime le faire pour une science humaine. Ce serait ravaler la parole de Dieu. Le mot théologie, d'ailleurs, n'est-il pas un contresens? Peut-on imaginer que l'esprit de l'homme puisse enseigner Dieu lui-même? Alors, nous voulons encore dire ceci, chers amis. Il y a à retenir quatre grandes confédérations qui sont déjà manifestées sur la scène et dont Dieu nous parle avec une très grande précision quant au rôle qu'ils vont jouer sur la scène. Cette première grande congrégation d'hommes, nous venons d'en parler, c'est donc l'Empire romain, formé, comme il le sera tout à l'heure, une corne. Nous avons l'histoire dans le prophète Daniel, dans l'Apocalypse, nous avons les faits. Subséquent à ceux de Daniel, une tête va émerger de toutes les têtes et va s'emparer de tout le pouvoir donné par les autres cornes, à cet individu qui prendra tout en main et qui sera appelé la bête. Le Seigneur n'a plus besoin de nous dire « c'est la quatrième bête ». Il sait bien que nous avons lu le livre de Daniel, qu'il y a quatre bêtes, que trois bêtes font partie du passé, de sorte que le Seigneur se borne à nous parler dans l'Apocalypse de la bête. Il sait bien que nous savons que Nébuchadnetsar, que les Médo-Perses et que l'Empire grec d'Alexandre sont du passé. Chose à dire encore une fois, cette confédération des nations latines, dont leurs armées seront prélevées dans les populations de nos pays, en France, en Angleterre, en Belgique et ailleurs, ces armées auront quel but final? Nous ne pouvons jamais oublier de dire cela, parce que ça nous donne aussi un aperçu sur le but que poursuit le monde actuel, et cela nous aide à nous détacher d'une scène qui se termine de cette façon. Quel est le but final des armées qui seront tout à l'heure mobilisées sous l'égide d'un seul chef? Et qui marcheront toutes au pas cadencé, rien qu'un chef, et qui formeront une puissante armée dotée des moyens les plus perfectionnés, de telle sorte qu'on dira qui est semblable à la bête. Quand on verra défiler des régiments armés, carapassonnés, comme on le verra tout à l'heure, les gens seront épris de cette force, seront grisés par cette force, et diront qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Eh bien, de ces armées, mobilisés contre le Seigneur au moment où il va descendre du ciel, c'est le dernier effort fait par l'Empire romain pour empêcher l'établissement du Seigneur sur la scène, parce qu'il sait bien que la venue du Seigneur pour réclamer ses droits, c'est sa fin. À ce moment-là, chers amis, tout est brûlé. Il ne reste rien de cette quatrième bête, c'est-à-dire de l'Empire romain dans ses forces vives. La Grèce, nous l'avons entendu, la Perse sont toujours sur la scène, un reste de vie leur a été donné. Pas face à l'Empire romain, tout sera détruit, il n'y aura pas de reste. Et les chefs spirituels et militaires seront pris, la bête et le faux prophète, celui qui anime le système, qui est l'esprit de ce système, comme l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la Sainte Trinité, l'Antichrist est l'esprit dans cette Trinité du mal. Satan, la bête, le faux prophète. Ces deux hommes, ces deux agents si importants de l'ennemi sont jetés vifs dans les temps de feu sans passer par la mort, comme deux hommes sont montés au ciel sans passer par la mort, il y en a deux qui sont jetés en enfer. Voici en un mot, rapidement donné, les quatre grandes confédérations. La première, on s'en occupe en détail, nous n'allons pas répéter cela. Il y a une deuxième confédération, c'est ce que l'on appelle la Ligue arabe. Elle est donnée en toutes lettres et avec une précision remarquable dans la parole de Dieu. Il suffit d'ouvrir le livre des psaumes, psaume 83, et nous allons avoir la liste de ces nations. Il y a déjà été fait allusion plusieurs fois. Et le but qu'ils poursuivent, les objectifs qu'ils poursuivent, Dieu est très précis. Alors, tes ennemis s'agitent au verset 2. Il y a une agitation aujourd'hui dans le Proche-Orient comme il n'y en a jamais eu précédemment. Pendant des siècles, c'était le pays sans terre et la terre sans pays, le calme, un calme plus ou moins complet régnait sur ces contrées. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit où il n'y a pas la nécessité d'être armé pour se prémunir contre la gauche, contre la droite, etc. Vous le savez aussi bien que nous. Ils ont dit, tes ennemis s'agitent. Alors, qu'ont-ils dit? Ils s'agitent contre ton peuple, surtout. Israël, M. Darby disait qu'au moment où nous arrivons près de la fin, dans les commentaires sur Daniel, il dit, vous verrez que Israël prendra une place prépondérante. Et tout le monde parle d'Israël aujourd'hui, comme on en parlait si peu autrefois. Aujourd'hui, tout le monde, tous les jours, parle d'Israël. Israël prend d'autant plus d'importance que nous sommes près de la fin. Alors, ils ont dit, verset 4, « Venez, exterminons-les, de sorte qu'il ne soit plus une nation, qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Quelqu'un pourrait-il trouver une formule plus lapidaire, plus concise, pour exprimer l'antisionisme et l'antisémitisme? « Venez, exterminons-les, de sorte qu'il ne soit plus une nation. » Nous ne voulons plus entendre parler d'Israël comme nation. C'est bien l'antisionisme qui a été mis sur pied par Theodor Herzl en 1897, après la dégradation du capitaine Dreyfus en France, cet homme a compris que jamais les Juifs ne seraient chez eux. Mais maintenant qu'ils sont chez eux, venez, détruisons-les, jetons-les à la mer. Ils ne s'en cachent pas, c'est une affirmation qu'ils font encore tous les jours. Deuxième point, qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. C'est l'antisémitisme. Nous ne voulons plus de ce peuple juif qui est la cause de tous nos malheurs. Nous n'allons pas continuer parce que nous pourrions prendre beaucoup trop de temps. Mais vous voyez, en deux phrases, quels sont les objectifs? Et quels sont ceux qui retiennent ces objectifs? La liste nous est donnée, verset 6, « Édom, Ismaël, les fils d'Abraham, les Arabes, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, la Philistie, tous les habitants de Tyr, Assur aussi s'est joint à eux. » Et notre frère tout à l'heure a rappelé que Assur, c'est bien la Syrie, c'est bien Gog et Magog dont il est question dans la parole de Dieu. Assur prête la main, donne la puissance à cette confédération arabe. Nous savons bien quelles sont les relations qu'ils ont entre eux, quel est le soutien qu'Assur donne à ces nations. Alors nous lisons dans le prophète Ézéchiel rapidement, pour la troisième confédération qui est en scène déjà contre Israël, c'est au chapitre 38 du prophète Ézéchiel. Le Seigneur parle en tournant sa face, en invitant le fils d'homme à tourner sa face vers Gog, le chef du pays de Magog, hein, le prince de Roche. Remarquons la perfection de notre traduction en passant, chers amis. Cela fait sourire parce que cela nous aide à voir, dans un détail en passant, comment le cher traducteur, au siècle dernier, était déjà conduit par l'Esprit de Dieu et possédait un savoir peu ordinaire. Si vous consultez beaucoup d'autres versions, vous verrez qu'au lieu de trouver le prince de roche, vous avez le prince des chefs. Parce que beaucoup de traducteurs, au siècle dernier, au début du siècle dernier, et même avant, ignoraient qu'il y avait une contrée qui s'appelle Roche, au nord de la Russie, dans les steppes ignorées, barbares. On n'avait qu'une connaissance très limitée de ce vaste pays, et Roche était une inconnue pour beaucoup de traducteurs, même pour Jérôme. De sorte que, quand on a lu sous la plume de J.N.D. Prince de Roche, on a véritablement un flot de lumière jeté sur ce passage, parce que Roche n'est pas chef. Dans l'original, il paraît que les mots sont à peu près voisins, mais c'est bien le prince de Roche, c'est-à-dire des contrées nordiques de la Russie, qui étaient inconnues à l'époque, mais qui en peu de temps, depuis la révolution de 1917, se sont affirmées, se sont développées avec une vitesse qui relève du génie. Alors, prince de Roche, de Méjec, de Moscou, de Tubal, Tobolsk, etc. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, verset 3. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méjec et de Tubal, je te ferai retourner dans ton pays. Et il va nous donner ses alliés, verset 5. Avec eux, remarquez la Perse, Cush et Put. Nous avons quelques chapitres en arrière. Et nous allons retrouver les nations citées par notre frère Müller tout à l'heure. Chapitre 27, verset 10, vous avez une note qui est intéressante. La Perse, Lud et Put. Et vous voyez, notre traducteur avait quand même s'était penché sur ces sciences si compliquées, difficiles de l'ethnologie, et il nous dit, Lud, ce sont les Lydiens d'Afrique, et Put, c'est la Libye. Et le chapitre 11 de Daniel nous confirme entièrement cette association entre la Perse, le roi du Nord, et ces nations dont nous venons de lire le nom dans la note. Première grande confédération latine, deuxième la Ligue arabe, troisième celle du Nord, qui aujourd'hui représente un potentiel extraordinaire. Et ne nous méprenons pas, chers amis, il est bien vrai, les frères comme Louis Chaudier nous ont dit cela plusieurs fois, que le dernier ennemi qui sera en scène après la destruction de l'Empire romain, ce sera l'Empire du Nord. Voici au verset 20, 17 d'Ézéchiel 38, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas, il parle à Gog, il parle à la Russie, Gog Magog, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs? Et à qui parlais-je dans les jours d'autrefois par mes serviteurs? C'est bien à l'Empire d'Assyrie, c'est bien de l'Assyrien que je parlais. Mais maintenant, c'est toi qui es la continuation de cet Empire d'Assyrie qui jouera sa dernière carte après l'écrasement de l'Empire romain à Jérusalem, parce que tout commence à Jérusalem et tout se termine à Jérusalem. Le roi du Nord arrivera à la curée, comme l'on dit, pour trouver sa fin décrite dans Daniel 10 de façon extraordinairement saisissante. Enfin, la quatrième confédération, il en a été question, je cite seulement le passage, et deux versets de l'Apocalypse qui nous montrent bien combien la chose est sérieuse et comment la précision de Dieu est soulignée de façon admirable. Au chapitre 9 de l'Apocalypse, nous lisons, verset 13, chapitre 9, verset 13. Et le sixième sonna de la trompette, le sixième ange, et jouit une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient préparés, remarquez, il faut bien lire cela, les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, donc un jour précis, il y a une heure que Dieu connaît, un beau matin, à telle heure, l'opération sera déclenchée, un jour, un certain jour d'un mois, certain mois d'une année, on ne peut pas être précis. Notre enlèvement relève de la même précision, mais nous ne le connaissons pas. Comme cet événement n'est pas connu, mais Dieu nous dit, il aura lieu quand je le déciderai, l'heure à l'heure, au jour, au mois et à l'année qui est déjà écrite au ciel. Dieu ne se trompe pas d'une minute. L'heure, le jour, le mois, l'année. La barrière de l'Euphrate sera levée pour que ces populations se ruent dans la terre d'Israël, parce que c'est là que Dieu, nous le voyons en terminant, c'est là que Dieu a décidé de mettre fin à toute la gloire des nations. Au chapitre 11, au chapitre plus loin, dans le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 16, vous avez encore une mention. Au verset 12, et le sixième, c'est le même événement, le sixième versa, le sixième ange, donc versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Et un cher frère qui, en Amérique, s'est occupé beaucoup de ces questions, peut nous dire, eh bien, pour cette quatrième confédération, nous devons y voir les rois de l'Orient. Notre frère a cité tout à l'heure la Chine, l'Inde, même le Japon, dont le potentiel industriel a atteint des proportions inimaginables et qui sera, disons, l'armature de cette confédération qui comportera des populations en masse pour venir s'emparer de tout ce qui résultera de la guerre qui aura lieu dans la terre de Judée. Parce que, dernier mot, notez encore dans le prophète Joël, voilà l'explication, la raison. Proclamez ceci parmi les nations, chapitre 3 de Joël au verset 9, préparez la guerre. Les budgets des nations aujourd'hui atteignent des niveaux démentiels. Et chaque année, il faut mettre à la ferraille des organes, des instruments, des équipements qui ont coûté de l'or pour trouver des soins adéquats et dans des conditions qui seraient si utiles pour les populations pauvres, c'est une autre histoire. Préparez la guerre, réveillez les hommes forts, c'est-à-dire ne manquez pas de former des hommes qui auront des capacités militaires. Qu'ils approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos socs forgés des épées. Tout est sacrifié au budget militaire. En plus de cela, de vos serbes des javelines, que le faible dise « Je suis fort ». Accourez, venez, vous, toutes les nations de toutes parts et rassemblez-vous. C'est le dernier rassemblement dans la terre de Judée, parce que c'est là que la croix a été dressée. Et c'est là que le Seigneur descend du ciel pour anéantir tous ses ennemis dans ce qu'ils auront de plus remarquable, c'est-à-dire la fleur de leur jeunesse.
Marqué dans ce chapitre de Daniel 7, la place que tiennent l'Ancien des Jours, le Fils de l'Homme et les saints des lieux très hauts. L'Ancien des Jours est cité au verset 9. « Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des Jours s'assit. » Sa description qui suit, qui a été lue ensemble hier après-midi, nous ramène exactement à la description qui est celle de Christ comme Fils de l'Homme au début de l'Apocalypse 1. Ici, c'est le Dieu d'éternité. C'est Dieu lui-même qui possède toute la puissance, le gouvernement. Le Seigneur Jésus, comme le Fils de l'Homme, est amené jusqu'à lui. Verset 13, « Je voyais dans les visions de la nuit, voici quelqu'un comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. » Et c'est le Fils de l'Homme, Christ, qui reçoit de l'Ancien des Jours le royaume. C'est bien cela que Paul prêchait, je crois que c'est à Athènes, c'est que Dieu a confié tout le jugement au Fils. Jean 5 nous dit la même chose, parce qu'il est Fils de l'Homme. Comme Fils de Dieu, Christ vivifie, comme Fils de l'Homme, Christ juge. C'est un homme qu'il a destiné à cela, que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Il nous en a donné la preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Les droits de Christ, comme fils de l'homme, sont absolument universels. Il les réclamera de la terre à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse jusqu'à la fin du chapitre 19. Ici donc, Christ, fils de l'homme, est distingué de Dieu l'ancien des jours. Mais Jean 12, en rapport avec Jéhovah, nous dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Christ lui-même, de sorte que Christ est Dieu. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Il juge et il établira un royaume éternel qui ne passera plus à aucun autre homme, à aucun autre royaume. Le royaume éternel du monde, de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Ce royaume, il sera établi lorsque la pierre sans main de la statue brisera les pieds. La pierre sans main brisera les pieds de la statue. C'est un acte de providence divine qui n'a aucun instrument humain. C'est Christ lui-même qui brise la puissance romaine et qui établit son royaume à lui. Mais la pensée de Christ à cet égard est d'y associer les saints qui ont traversé les peines et les souffrances du témoignage pour lui. Et ces saints prennent ce caractère des saints des lieux très hauts. Expression que l'on trouve au verset 18 pour la première fois. Les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Verset 22. L'ancien des jours vint, lorsque la bête et sa corne veulent usurper le pouvoir et dominer le monde entier, Dieu a décidé autrement. Il y associe les saints. Les saints, le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts, et le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Et puis le dernier roi, la dernière confédération du royaume romain, il proféra des paroles, verset 25, contre le très haut, et il consumera les saints des lieux très hauts. Il pensera changer les saisons et la loi. Et puis verset 27, enfin, c'est le terme, le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. D'un côté, l'Église sera associée à Christ et dans le jugement et dans le royaume. C'est la raison invoquée par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6 pour que nous ne pensions pas aller régler nos affaires entre nous devant les tribunaux du monde. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous jugerons le monde? Mais il y a aussi une pensée très consolante ici en rapport simplement avec la terre. Parce que dans Daniel, nous sommes en rapport avec la prophétie qui est essentiellement terrestre. Il y en a qui auront donné leur vie pour Christ à un moment où la valeur, le prix du témoignage, c'était le prix de sa vie. On en trouve au moins à trois reprises différentes dans l'Apocalypse. D'abord, les âmes qui sont sous l'autel, au chapitre 6 de l'Apocalypse. Eh bien, ils attendent. Ils attendent que Christ prenne leur cause en main. Il y aura ensuite les martyrs juifs. Il y aura ensuite les martyrs gentils. On trouve ces trois catégories de personnes dans Apocalypse 6, Apocalypse 13, Apocalypse 15, respectivement. Beaucoup d'entre eux seront amenés à donner leur vie pour le Seigneur Jésus. On sera placé devant un dilemme et on comprend très bien comment le monde, après notre départ, sera tellement organisé, avec toutes les cartes de crédit, la manière dont on peut identifier une personne par un nombre à 7 ou 8 chiffres dans le monde entier. La bête romaine contrôlera absolument toutes les transactions, de sorte que ou on accepte la marque de la bête, ou on meurt de faim. Il y en a qui choisiront de laisser leur vie pour Christ. N'auront-ils donc pas de part avec Christ dans le royaume? Avaient-ils perdu leur part à cause de leur fidélité? Non. Et nous trouvons le secret de ceci en Apocalypse 20, ce qui complète ce que notre frère M. Sagne a dit tout à l'heure. Verset 4 de Apocalypse 20, « Je vis des trônes. » Regardez comme M. Darby nous aide. « Ils étaient assis dessus, là notre petit « e », Dans Daniel 7, on ne voit personne assis sur les trônes. On a bien vu les trônes tout à l'heure dans la première mention de l'Ancien des Jours. Personne n'est assis sur les trônes. Ces trônes seront occupés par qui ? D'abord par Christ, le juge des vivants et des morts. Ici, c'est le juge des vivants. Au grand trône blanc, après le millénium, il sera juge des morts. Et puis le jugement leur fut donné, les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et par la parole de Dieu. Ce sont les âmes du sixième sceau, du cinquième sceau de Apocalypse 6. Ceux-là qui devaient attendre que Dieu prenne leur cause en main. Et puis, il y avait ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front sur leurs mains. Chapitre 13 de l'Apocalypse, chapitre 15. Les martyrs gentils et les martyrs juifs. Eh bien, ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. De sorte que ces catégories de rachetés qui avaient donné leur vie pour Christ dans cette période intermédiaire des jugements et de l'affliction sur la terre entière, soit dans la terre prophétique, soit dans la terre juive particulièrement, ceux-là seront ressuscités, auront part à la première résurrection. Sans entrer dans les détails, parce que c'est un autre sujet, c'est la deuxième phase de la première résurrection. La première phase étant la transmutation des vivants et le réveil d'entre les morts des saints de la période de l'Église, ensemble étant ravis à la rencontre du Seigneur en l'air pour être toujours avec lui. Nous reviendrons ensuite, comme les armées célestes, Apocalypse 19, dans le jugement guerrier et dans le jugement judiciaire du chapitre 20. Le jugement guerrier au chapitre 19, le jugement judiciaire au chapitre 20. Toutes ces choses en fait sont déjà en pensée, contenues dans Daniel 7.
Je voudrais faire une simple remarque en rapport avec la manière dont le Seigneur Jésus reçoit le royaume, en contraste avec ces bêtes qui ont reçu le royaume de la part de Dieu. Nous avons tous été frappés par cette expression du verset 14. Et on lui donna le royaume. Lorsqu'il s'agit des royaumes terrestres, ces bêtes, pour ainsi dire, se sont emparées du royaume par la violence. Et nous avons vu que dans le chapitre précédent, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce que Dieu leur avait donné. Mais à cause de cela, eh bien, Dieu les mettra entièrement de côté. Mais quelle différence avec le Fils de l'homme que Dieu va établir sur tous les royaumes, qui va lui donner la domination universelle. On lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Il ne s'empare pas du royaume, comme les autres bêtes l'ont fait, mais il le reçoit. Il le reçoit de la main de Dieu. Et c'est beau de voir cette humilité qui caractérise le Fils de l'homme dans sa gloire. Le Seigneur apparut dans ce monde comme un homme humilié, comme un homme abaissé, l'homme débonnaire et humble de cœur, mais la gloire ne l'a changé en aucune manière. Il reste ce qu'il est. Nous avons ici la réalisation du psaume 2. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession le bout de la terre. C'est une chose merveilleuse de voir cela, que la gloire dont le Seigneur a été couronné, eh bien, ne change en rien son caractère d'homme humble, débonnaire et humble de cœur, comme il nous le dit dans l'Évangile. Une autre remarque aussi que notre frère vient de souligner, c'est qu'il reçoit le royaume, mais il veut s'associer les siens avec lui. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons que nous obtiendrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas notre gloire. Nous n'avons aucun droit à la gloire, mais la gloire dans laquelle nous allons entrer, associée avec le Seigneur, eh bien, c'est sa propre gloire, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 27. Le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Le Seigneur s'est acquis cette gloire de Fils de l'homme en vertu de son œuvre à la croix, au prix des souffrances indicibles de la croix. Et le Seigneur veut partager avec nous cette gloire. Lorsque toutes les nations seront entièrement détruites et mises de côté. Mais nous avons déjà vu cela dans le chapitre 2, en rapport avec la statue qui a été placée devant nous, et en rapport aussi avec l'attitude de Daniel, après que Daniel eut expliqué le songe à Nebuchadnezzar. Eh bien, nous voyons au verset 46 du chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Au verset 48, le roi éleva Daniel en dignité et lui fit beaucoup de grands dons et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone. Et au verset 49, Daniel fit une demande au roi qui établit Sadrach, Mésach et Abednego sur le service de la province de Babylone. Daniel est comblé d'honneur par le roi Nebuchadnezzar. Il est placé, pour ainsi dire, au fait de la gloire. Toutes les nations se prosternent devant lui. Nebuchadnezzar représente toutes les nations. Le Seigneur Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou. Mais Daniel ne veut pas partager seul cette gloire. Et cela est remarquable. Il fit une demande au roi, lisons au verset 49, qui établit Sadrach, Mésach et Abednego sur le service de la province de Babylone. Il veut que ses compagnons partagent avec lui l'honneur qu'il a reçu de la part du roi. Ainsi est notre Seigneur. Il veut partager avec nous cette gloire de Fils de l'homme qu'il s'est acquise à la croix et au prix de ses souffrances.
Le cantique 154, nous donnerons le temps aux frères et sœurs et amis qui s'occupent du service de sortir.